Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Il est sur le départ, en tout cas il accepte le principe de négocier, mais en même temps il est encore là et il a déjà surmonté de nombreuses tentatives pour le faire partir. Jacob Zuma est toujours président de l'Afrique du Sud à l'heure où on parle, malgré les pressions et les divisions au sein de son propre parti, l'ANC. Le nouveau patron du parti au pouvoir depuis décembre, Cyril Ramaphosa, est à la manœuvre pour négocier une sortie de crise et prendre la place de celui dont le mandat a été marqué par plusieurs affaires de corruption et des questions sur son comportement. L'Afrique du Sud entre-t-elle déjà dans l'après-Jacob Zuma ? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous rejoignent ce soir. Avec nous en studio, Victor Magnani, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes chargé de projet au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et vous coordonnez l'Observatoire de l'Afrique australe et des Grands Lacs. Et par téléphone, en direct de Bordeaux, Marianne Séverin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, chercheuse associée sur l'Afrique du Sud au LAM, à Sciences Po Bordeaux. Vous avez rédigé une thèse intitulée « Les réseaux ANC ». Alors, je ne vais pas vous demander de prédire l'avenir, c'est pas votre métier, ni le mien d'ailleurs, mais je vais quand même vous poser la question. Alors qu'il a déjà surmonté plusieurs tentatives pour le faire partir, le président Zuma est-il proche d'un départ anticipé ? La fin de son mandat, c'est en 2019. Victor Magnani.
Oui, alors je crois que beaucoup d'observateurs se sont risqués à bien des pronostics auparavant et se sont trompés dans les faits. Néanmoins, je crois qu'aujourd'hui la situation est différente. Il est dans une situation bien plus critique qu'il a pu l'être auparavant, essentiellement parce qu'il a perdu le pouvoir sur son parti politique, sur l'ANC. Donc il n'est plus à la tête de son parti, ce qui change grandement les choses en Afrique du Sud. Le parti, l'ANC, avec énormément d'influence dans l'élaboration des politiques publiques du pays, dans le choix qui sont faits en Afrique du Sud et notamment sur le choix des hautes instances du pays. Donc aujourd'hui, Jacob Zuma a perdu la tête de l'ANC en décembre dernier, en décembre 2017. Cyril Ramaphosa est désormais le nouveau président de l'ANC et donc il est en position de force d'une certaine manière pour négocier et pour imposer à Jacob Zuma un retrait imminent. C'est ce qui semble se préparer. Néanmoins, il est en position de force, Cyril Ramaphosa, mais il n'a pas une marge de manœuvre extrêmement importante. Jacob Zuma maintient une influence certaine au sein du parti qui lui permet d'avoir des compromis à demander.
On va en parler. Marianne Séverin, Jacob Zuma est-il encore en mesure de s'accrocher, selon vous ?
Il peut toujours s'accrocher, mais je crois que maintenant, il n'a plus le choix. D'ailleurs, ses partisans commencent à le lâcher. Hier, je lisais une dépêche et une interview où un de ses plus proches partisans expliquait que, en fait, il ne soutenait plus un individu, mais le parti. Alors, il faut comprendre que si Jacob Zuma s'accroche autant, c'est sûrement par rapport à de lointains souvenirs qui datent de quasiment 10 ans. Puisqu'il faut se rappeler aussi que en 2008, quelqu'un d'autre a été obligé de partir, donc c'est l'ex-président
Thabo Mbeki. Ouais.
Voilà, donc il faut se remettre un peu aussi dans l'histoire. Et deuxièmement, je pense qu'il doit négocier pour lui, mais il doit également négocier pour certains ministres qui sont également en ligne droite de se retrouver bientôt au chômage, si je peux parler ainsi. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Quand il ne sera plus au pouvoir, il n'aura pas la possibilité d'échapper à la justice, puisque Cyril Ramaphosa a bien expliqué qu'il est hors de question qu'on lui accorde une immunité judiciaire.
Alors, ces mandats, le premier et le deuxième, ont été marqués par la multiplication des affaires, l'histoire des travaux de sa maison, financée par de l'argent public, la proximité avec les frères Gupta qui ont apparemment profité pour bénéficier de nombreux contrats publics et de coups de pouce de la présidence. Victor Magnani, c'est passé, mais ça ne passe plus auprès de l'opinion sud-africaine et de l'ANC.
Alors, effectivement, l'image de Jacob Zuma est extrêmement écornée au sein de la population depuis très longtemps, mais également au sein du parti. C'est ce que disait Marianne Sévrin. Y compris des proches de Jacob Zuma aujourd'hui sont capables de reconnaître que des errements ont été tolérés au sein du parti, au sein des plus hautes instances de l'État. Donc, bien sûr, les élections de 2019 approchent. Elles auront lieu au printemps 2019. L'ANC a été en retrait, en tout cas lors des dernières élections municipales de 2016. Et l'ANC a perdu notamment la ville de Pretoria, la ville de Johannesburg, la ville de Port Elizabeth, qui font partie des principales villes de l'Afrique du Sud et qui sont symboliques d'une certaine manière, mais qui ont aussi qui ont aussi une importance économique. Ça permet de redistribuer des fonds publics, notamment. Donc voilà, Jacob Zuma a été qualifié de responsable, hein, finalement, de ce déclin de l'ANC durant les derniers scrutins électoraux. Et conserver Jacob Zuma aujourd'hui à la tête de l'ANC et se présenter aux élections en 2019, c'est non seulement admettre que ce qui s'est passé auparavant n'était pas si scandaleux que cela, mais c'est également permettre à l'opposition d'avoir une cible facile et d'accuser l'ANC de tolérer la corruption en Afrique du Sud.
Marianne Sévrin, Jacob Zuma, responsable ou bouc émissaire ?
Non, responsable. Et puis alors, nous sommes tous en train de parler de ce qui s'est passé, des faits de corruption durant son mandat, mais faut quand même voir que ça date depuis extrêmement longtemps, depuis la fin des années 90, hein, qui a conduit à son éviction de la vice-présidence lorsqu'il était vice-président sous la mandature de Thabo Mbeki. Il y a une histoire qui est sortie il y a 2-3 jours. C'est cette histoire sur le scandale des arms deals qui malheureusement met en lumière une entreprise française, et il est dit que Jacob Zuma aurait reçu des pots de vin et pour éviter notamment que cette entreprise soit condamnée lourdement. Donc tout le monde savait, hein, et Thabo Mbeki l'a dit au moment où il est parti, que Jacob Zuma était quelqu'un de corrompu. Donc c'est quand même ironique à l'heure actuelle, et notamment quelqu'un de l'opposition, Julius Malema, qui explique aujourd'hui qu'il faut absolument le faire sortir, et que si l'ANC n'arrive pas à le faire partir, son parti, les membres de son parti vont le faire partir physiquement. Mais Julius Malema a une mémoire sélective, parce que si je me souviens bien, en 2006-2007, il disait qu'il était prêt à mourir pour Jacob Zuma.
Alors, Cyril, Julius Malema qui a fait scission, hein, de l'ANC, c'est un ancien de l'ANC. Jacob Zuma essaye d'obtenir une immunité, vous en avez parlé, Marianne Sévrin, pour lui et ses proches. Jusqu'à quel point est-ce qu'il peut négocier ça? Qu'est-ce qu'il peut obtenir, en fait, Victor Magnani?
Alors, je crois qu'il faut déjà mettre l'accent sur le fait que la justice est indépendante et libre en Afrique du Sud, donc il ne pourra pas négocier une immunité totale. Ça, c'est totalement illusoire, et je ne crois pas que ce soit sur la table des négociations entre Jacob Zuma et Cyril Ramaphosa. Par contre, Jacob Zuma a su user de certaines stratégies pour ralentir le travail de la justice au cours des années précédentes. Donc peut-être que sur ces questions-là, il pourrait y avoir des choses à discuter entre le président de l'ANC et le président de l'Afrique du Sud actuellement. Par exemple, ne pas rendre disponible à la justice un certain nombre de documents. En tout cas, ralentir le travail de la justice au quotidien. Ce qui peut se négocier, mais ce qui n'empêchera pas, ce qui ralentira certainement le travail de la justice, mais qui n'empêchera pas, la mise en cause de Jacob Zuma et de beaucoup de ses proches. La justice sud-africaine, je dis, est indépendante. Elle a montré par le passé son efficacité pour condamner Jacob Zuma, d'ailleurs, sur le scandale de Nkandla que vous mentionnez, sur les contrats arm deals qui ont été mentionnés tout à l'heure. Et également, la justice a fait un travail.
L'entreprise française dont parlait Marianne Sévrin, on va le dire, c'est Thales. Hein.
C'est une filiale de Thales, effectivement.
Oui, voilà.
Et donc voilà, la justice sud-africaine est capable de se saisir d'un certain nombre de dossiers très complexes et d'aller très loin dans ses enquêtes, ce qui indique, je crois, que Jacob Zuma ne pourra pas éternellement échapper à la justice de son pays.
Alors Cyril Ramaphosa, c'est un ancien syndicaliste qui a été reconverti avec succès dans les affaires. Il a fait campagne sur la lutte contre la corruption. Et finalement, il n'y a pas grand-chose à négocier avec Jacob Zuma, Marianne Sévrin.
Pas grand chose à négocier, ça dépend à qui vous avez affaire. On est obligé de négocier avec un Jacob Zuma qui est carrément dans le déni, parce que selon les sources internes de l'ANC, c'est que vous lui expliquez qu'il faut qu'il parte, et pour lui, il a rien fait de mal. Et le gros problème, en fait, de Cyril Ramaphosa, c'est d'éviter une explosion du pays. Parce que ce qu'il expliquait, et plutôt un proche à expliquer, c'est que en Afrique du Sud, la population est quand même tendue, parce que les Sud-Africains ont vraiment assez de ce président Zuma. Et ce dont on a peur aujourd'hui, c'est qu'il y ait des tensions, des conflits, et qu'on en arrive à, entre guillemets, une guerre civile. Donc, enfin, un négociateur, Cyril Ramaphosa est obligé, en fait, d'essayer de faire son possible pour donner des garanties à la fois à la société sud-africaine, mais également à Jacob Zuma. Il en va aussi de la stabilité de la démocratie. Alors, beaucoup disent que finalement, Cyril Ramaphosa est un faible. Moi, je pars du principe que ce n'est pas être un faible que de vouloir finalement négocier pour sortir ce conflit vers le haut.
Alors, on le disait, c'est une affaire qui est quand même largement interne à l'ANC, le Congrès national africain, le parti au pouvoir. C'est un parti qui est divisé, hein, dans lequel Jacob Zuma a encore de nombreux partisans. J'allais utiliser le mot affidé. Marianne Sévrin, vous nous disiez que certains étaient en train de le lâcher. Est-ce que ça peut être un mouvement global, Victor Magnani?
Oui, alors je crois que vous faites bien de mentionner que le problème est interne à l'ANC à la base. Le congrès de l'ANC qui a lieu en décembre 2017 a mis en évidence deux factions qui s'opposaient, mais qui étaient également d'un poids relativement similaire. C'est pourquoi aussi aujourd'hui Jacob Zuma est capable de négocier avec Cyril Ramaphosa, parce qu'il peut se prévaloir d'un soutien légitime et évident au sein de son parti. Près de la moitié de l'ANC soutient encore Jacob Zuma. Donc ça, ce n'est pas rien. C'est une chose à mentionner. Et il est vrai que Cyril Ramaphosa a eu un discours unificateur en disant qu'il était le candidat de l'unité et qu'il fallait mettre derrière soi les luttes intestines. Donc je crois que c'est ce qu'il essaye de faire aujourd'hui. Il est face à un dilemme assez délicat qui est à la fois d'être le garant d'une alternative, d'un renouveau au sein de l'ANC, au sein de l'Afrique du Sud, mais également de préserver l'unité de son parti, l'unité de l'ANC, pour ne pas braquer quasiment toute la moitié de ce parti-là, ne pas braquer Jacob Zuma et ses proches. Alors effectivement, c'est un fin négociateur et il est capable également de discuter avec les proches de Jacob Zuma et leur faire comprendre que l'histoire est en train de changer et que les soutiens du passé ne seront pas forcément garants de succès futur pour ces personnes-là ou de postes dans des administrations notamment. Donc voilà un petit peu le dilemme qui est présenté à Cyril Ramaphosa, mais il est effectivement un très bon négociateur. Il a été notamment dans l'équipe des négociateurs à la fin de l'apartheid. Il a permis de trouver un compromis qui permettait la transition démocratique en Afrique du Sud. Donc ce n'est pas rien. Il a cette réputation-là et je crois qu'il est en train à l'heure actuelle de faire preuve de ces qualités-là.
L'après Zuma, j'allais vous poser la question, Marianne Sévrin, va ressembler à quoi politiquement? Est-ce qu'une scission de l'ANC est envisageable? Est-ce que ça peut être la fin du système politique sud-africain, de l'hégémonie du parti sur la politique sud-africaine? Est-ce que ce risque existe?
Franchement, non, je pense pas. Si Ramaphosa négocie bien, on peut avoir encore un parti dominant. Il faut observer ce qui se passe dans l'opposition. En décembre, après décembre, donc après les élections, on s'est rendu compte que l'opposition était quand même un peu mal à l'aise parce que finalement tout leur combat c'était contre Jacob Zuma. On sait que de toute façon il est sur le point de partir et je ne pense pas que l'ANC a envie de continuer à baisser dans les élections et on sait très bien que si Ramaphosa devient le président après Jacob Zuma, il fera en sorte de nommer au sein de son gouvernement les meilleures personnes et d'ailleurs faire revenir certains ministres qui avaient été renvoyés par Jacob Zuma pour redresser le pays. Et même, vous sentez l'ambiance en Afrique du Sud, je discute avec des universitaires sud-africains, avec des amis sud-africains, et vous sentez quand même qu'il y a un peu moins d'angoisse. Bon, à part en ce moment, mais ça c'est tout à fait normal, mais vous sentez qu'il y a un regain d'espoir. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, avec l'Afrique du Sud, on est toujours face à beaucoup de surprises, donc il faut attendre. Mais si Jacob Zuma décide véritablement de partir ou plutôt accepte, je pense que l'ANC pourrait quand même garder un certain pouvoir en Afrique du Sud et voire même regagner certaines villes. Et puis regardez au niveau de la province du Western Cape, l'ANC au Western Cape se prépare justement à renverser la tendance et à arracher cette province à l'opposition.
J'allais poser une question de Béotien, Victor Magnani. Jacob Zuma, c'est un Zoulou, c'est un membre de l'ethnie la plus nombreuse en Afrique du Sud, alors que Cyril Ramaphosa, lui, est d'une ethnie minoritaire. Est-ce qu'il y a une dimension ethnique dans cette affaire?
C'est un sujet délicat.
C'est pour ça que je vous pose la question. Et que moi, je m'engage pas.
C'est pas une question de Béotien, justement, c'est une question assez complexe. Et il est vrai que l'ANC... est un parti nationaliste, d'une certaine façon. L'élément national est important, mais par contre, l'appartenance ethnique n'a jamais été mise en avant. La question raciale, d'ailleurs, n'a jamais été mise en avant non plus. Les blancs, les noirs, les colored en Afrique du Sud ont toujours été les bienvenus. La dimension raciale, également, n'avait pas d'importance officielle, en tout cas. Néanmoins, le parti est né d'une province qui est l'Eastern Cape, qui est le bastion d'une des communautés principales d'Afrique du Sud, qui est la communauté Xhosa. Donc Nelson Mandela, par exemple, Thabo Mbeki,
oui,
était de cette ethnie-là, même si le terme est toujours délicat. Et effectivement, avec l'élection de Jacob Zuma, beaucoup ont commenté ce tournant-là, en disant qu'il y avait une zoulouisation du parti d'une certaine manière. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'antenne régionale de l'ANC dans le KwaZulu-Natal, donc dans la province Zulu, est la plus importante en termes de militants. Donc il y a une dimension là qui existe. Néanmoins, je crois qu'on ne peut pas taxer Jacob Zuma d'avoir favorisé cette ethnie Zulu-là. Il n'y a pas eu d'investissement massif dans cette province-là. Il ne s'est pas entouré uniquement de personnalités de cette ethnie-là. Donc moi, je serais assez prudent sur cette question-là.
Alors, Marianne Sévrin, il nous reste peu de temps, une petite minute, avec une situation politique qui est donc difficile, une situation économique qui est fragile. De quel poids pèse l'Afrique du Sud sur le plan régional autour et puis sur tout le continent d'ailleurs?
Je pense que l'Afrique du Sud, alors bon, je suis pas une spécialiste de l'économie, mais l'Afrique du Sud pèse son poids et on verra. Mais comme je le dis, hein, tout dépendra de l'issue de ce qui se passe en ce moment. À partir du moment où Jacob Zuma partira, ça va rassurer les investisseurs et c'est ce qu'a fait Cyril Ramaphosa quand il est parti à Davos, parce qu'il est très apprécié naturellement des grands entrepreneurs, des grandes entreprises. Et je pense que s'il devient président de l'Afrique du Sud, ça va faciliter les choses et ça va permettre à l'économie sud-africaine de reprendre des couleurs.
Merci Marianne Sévrin, merci à vous également Victor Magnani d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Vanadis Feuille à la documentation et à la réalisation aujourd'hui. Nicolas Benita, vous pouvez nous retrouver, nous podcaster sur le site internet de RFI, www.rfi.fr et sur vos plateformes mobiles avec notamment l'appli RFI Pure Radio dans la rubrique magazine. Rejoignez également le débat du jour sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Prochain débat demain, même heure, même endroit. D'ici là, bonjour chez vous.